Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du Havre.
Tous les enfants se sont demandé à un moment donné, mon père, ce héros. Alors ça a donné l'objet de romans, ça a donné l'objet de films, et parfois aussi ça s'est invité comme thématique au théâtre, et c'est notamment le cas du spectacle Mon père, cet espion, qui sera joué à l'Espace Alia du 7 au 28 juillet à 19h15, dans un cadre un peu original, une yourte. Mais c'est aussi un spectacle qui aborde une thématique qui va tous nous concerner à un moment donné, c'est le thème de la fin de vie, comment on aborde ça et comment, un terme qui est un petit peu trop galvaudé de nos jours, mais comment on gère cette période de notre vie à un moment où on doit affronter des problèmes métaphysiques qui sont un petit peu effrayants, pour le moins, ou en tout cas angoissants, et qu'on est tous amenés à aborder un jour ou l'autre. Et c'est pourquoi j'invite la présidente de l'association Regain, qui est située au Thor, Evelyne Ponchon. Bonjour.
Bonjour.
Alors je disais, vous êtes de l'association Regain, une association qui communique sur les soins palliatifs et qui aide avec ses bénévoles les gens concernés, que ce soit dans l'entourage du malade ou le malade lui-même, à aborder cette période de la fin de vie.
Voilà, très justement, nous sommes une association d'accompagnement bénévole en fin de vie. Mmh. Les accompagnements bénévoles, c'est une partie de la société civile, c'est une composante des soins palliatifs qui sont régis par la loi de 1999. Les équipes de soins palliatifs, je rappellerai tout à l'heure un petit peu ce que sont les soins palliatifs, brièvement, se doivent d'avoir des accompagnants bénévoles dans leurs équipes qui représentent la société civile. Puisque notre engagement de bénévole accompagnement en fin de vie, c'est un engagement citoyen et c'est un engagement solidaire. C'est signifier à des personnes malades en fin de vie ou isolées qu'ils ne sont pas seuls, que la société civile les compte toujours parmi elles.
Des personnes se sont fait leur place dans la société toute leur vie, mais qui à la fin n'en sont pas éjectées pour autant, il faut quand même pas pousser. Et c'est ainsi que les choses sont abordées et que le cadre légal est fixé depuis 1999. Et si on aborde ce thème un petit peu austère, pour utiliser un euphémisme, qui n'est pas forcément mortifère, eh bien il s'agit en fait d'une coïncidence ou d'un heureux hasard, un hasard qui a un petit peu été piloté en tout cas par le jeu des connivences. Et vous nous en direz plus tout à l'heure. En fait, c'est par le truchement de ce spectacle, Mon père, cet espion, qui sera joué, disais-je, à l'Espace Alia tout au long de ce mois de juillet 2022 au Festival Off, puisque c'est la compagnie, le théâtre L'Entracte, qui est originaire de Nantes et qui est une compagnie d'improvisation à la base et qui avait répondu à une commande de la ville de Nantes justement sur ce thème de la fin de vie. Et de fil en aiguille, ça a donné ce spectacle auquel on va pouvoir assister durant cet été. Alors, Mon père, cet espion, je résume l'histoire, en fait, en quelque sorte. C'est un espion qui, sur la fin et de sa carrière et à l'approche de cette période un petit peu ambivalente de la fin de vie, eh bien, qui est amené à réfléchir un petit peu sur le cours de son existence. Et il accepte quelques missions supplémentaires, tant il est vrai que quand on entre dans les services, on n'en sort jamais vraiment, comme disent les professionnels de ce milieu-là. Eh bien, il accepte une dernière mission, mais qui le pousse dans ses retranchements et qui l'amène parfois même à jouer un double jeu, au point qu'il est lui-même un peu perdu dans ce grand jeu-là. Voilà. Et donc, l'ambivalence de ses conditions professionnelles l'amène à envisager un petit peu le double aspect qu'il y a à aborder cette dernière période de sa vie. Et c'est une réflexion qu'on est tous amenés à faire, évidemment, depuis, j'ai envie de dire, depuis la nuit des temps, c'est pas tout à fait vrai, mais tout de même, déjà, dans nos ancêtres en parler. Et justement, c'est un thème, j'ai envie de dire, presque intemporel, et qui a amené une réflexion, notamment sur ce spectacle, mais aussi une réflexion que vous proposez de prolonger à l'occasion de deux dates, le 8 et le 23 juillet. Avec le public et l'association Regain, on pourra échanger quelques vues et discuter autour de ce thème-là. Alors, comment vous-même avez été amené à connaître ce spectacle-là et à prendre contact avec eux pour organiser ces échanges au cours du Festival Off?
Alors, il se trouve que je participe au conseil d'administration de l'ASFAP, qui est la Société française des soins palliatifs.
D'accord.
Et qu'à travers cette instance, je suis en relation avec le COMPAS de Nantes, qui est une structure de coordination des soins palliatifs, et qui, avec la métropole de Nantes, est à l'origine de cette demande.
D'accord.
Auprès de la troupe de l'Entracte. Et donc, effectivement, dès que j'ai su qu'un tel spectacle venait jusqu'à nous, en Avignon, j'ai pris contact avec la chargée de diffusion du Théâtre de l'Entracte et nous avons pensé que nous avions un intérêt commun à ce partenariat dans une synergie, justement, pour aborder ce sujet qui souvent fait peur, qui parfois semble quand même très, très dur à aborder et qui là peut être abordé de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus délicate et avec humour.
Par l'aide des euphémismes justement de l'histoire, c'est un petit peu la magie du théâtre. Comment les acteurs eux-mêmes ont abordé ce travail-là, parce qu'il s'agit d'une compagnie d'improvisation, donc j'imagine que c'est un travail, c'est une écriture de scène comme ils disent dans le milieu.
C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait une élaboration collective d'un texte avec ces professionnels des soins palliatifs qui les avaient sollicités et du grand public. Et avec l'interaction du grand public et des professionnels et leur savoir-faire d'écriture, ils ont élaboré d'abord un livre qu'ils ont diffusé à la métropole. Et c'est le metteur en scène qui, devant ce livre, s'est dit qu'il allait pouvoir créer une fiction pour la scène et qui a élaboré le spectacle qui va être présenté en Avignon.
Très bien, donc un travail au long cours, j'ai envie de dire, et qui vient pour... Ce n'est pas la première fois que la compagnie vient à Avignon, le Théâtre de l'Entracte, mais c'est la première pour ce spectacle, me semble-t-il. Et on aura l'occasion de le voir du 7 au 28 juillet, notamment pour les dates du 8 et du 23, après le spectacle de 19h15. On quittera la yourte qui est installée de manière temporaire dans cet espace Alia, et on ira dans une autre salle pour échanger sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, à l'occasion, vous pourrez peut-être rappeler... D'ailleurs, vous allez le faire maintenant. En quoi consistent les soins palliatifs à proprement parler ? Parce qu'on en entend parler, mais ce n'est pas forcément clair pour tout le monde.
Voilà. Alors, ce sont des soins qui pratiquent une approche globale de la personne. Ce sont des soins continus. Ce sont des soins qui sont pratiqués de manière interdisciplinaire, qui prennent en charge la personne dans sa globalité et qui ont pour but d'apaiser, de soulager ses souffrances, que cette souffrance soit physique, psychique, morale, sociale, dans toutes ses composantes.
D'accord, donc dans sa globalité, différents aspects, si je vous comprends bien, il n'y a pas que l'aspect médical, il y a aussi les travailleurs sociaux, il y a aussi la famille qui...
Tout à fait, tout à fait. Quelqu'un qui est en fin de vie et qui a une problématique sociale, je pense à quelqu'un récemment, une femme jeune, seule avec deux enfants en bas âge et qui va mourir, elle est bien sûr extrêmement souffrante et préoccupée de laisser ses enfants. Et tout un travail a été fait avec elle et autour d'elle pour que ses enfants, qu'elle sache, qu'elle soit rassurée, entre guillemets, bien sûr, on imagine cette maman, qu'elle soit rassurée sur le devenir de ses enfants et la prise en charge de ses enfants.
D'accord.
Donc c'est un exemple de souffrance sociale, morale aussi, qui est pris en compte.
Alors votre association, l'association Regain, basée près d'Avignon, donc s'occupe notamment de cet aspect-là des choses. C'est une association qui est apolitique et non confessionnelle. Je ne vous cache pas que s'il en était autrement, vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Et de toute manière, tout est assez encadré par la loi de 99 que vous nous avez citée tout à l'heure.
Aussi par la charte des soins palliatifs.
Une loi est plus contraignante qu'une charte tout de même.
Hein. Oui, c'est ça. Mais on a les deux, c'est-à-dire que la loi nous donne notre positionnement à l'intérieur des équipes et la charte nous contraint, en particulier sur le non-prosélytisme aussi. Et puis, nos formations, c'est un bénévolat extrêmement encadré. Les bénévoles sont formés à l'accompagnement sur une durée d'à peu près un an, sur une moyenne de 60 heures environ, 60 à 70 heures, et pendant lesquelles on aborde les sujets sensibles, bien sûr, de la mort, du deuil, du toucher, de la relation corporelle, de l'écoute, puisque c'est quand même notre principale action, que celle d'écouter et d'apporter notre présence.
Mais mine de rien, ça ne va pas de soi, il faut savoir écouter.
Voilà, ça s'apprend aussi. Et puis, ces formations sont contrôlées, j'allais dire, par la cellule CNAM-SFAP, c'est-à-dire que la Caisse nationale d'assurance maladie à son regard, sur les formations que nous donnons. Notre formation répond à une trame qui est élaborée à la fois par la Société française des soins palliatifs et par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Très bien. Donc, il y a des financements publics pour tout ça. J'imagine que les familles des défunts, des futurs défunts, j'ai horreur de le dire comme ça, mais c'est aussi un aspect des choses. En tout cas, de ceux qui ont du mal à s'imaginer en tant que futurs défunts, même si on y passera tous, hein, soyons honnêtes, ont un petit peu sont évidemment partie prenante du processus et c'est bien la moindre des choses.
Nous ne demandons aucune participation aux familles. Elles sont...
Dans leur investissement personnel, j'entends.
Oui.
Oui. Alors, non, pas de participation financière, on est
voilà,
bien d'accord.
Hein, voilà.
Oui, ça va de soi. Alors, par contre, la formation des bénévoles est à leur charge, à ma connaissance, et elle n'est tout de même pas donnée. Donc, je me demande, c'est quelque chose de l'ordre de 200 euros, je crois, même si c'est déductible des impôts. Par contre, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas difficile dans ces conditions de trouver des bénévoles ?
Alors, je ne pense pas que ce soit la part difficile du recrutement. C'est-à-dire que quelqu'un pour qui l'argent serait un obstacle à cette formation, l'association trouve toujours une solution de permettre à la personne, si elle est motivée et si elle correspond au profil qui semble satisfaisant pour devenir accompagnant bénévole, l'association fait en sorte que l'argent ne soit pas un obstacle. Par contre, l'affaire payante est un engagement. Et quelque part le début de l'engagement dans le bénévolat. Parce que c'est un bénévolat qui demande un engagement, qui demande une régularité, qui demande un véritable engagement dans la disponibilité. Et c'est la première part de cet engagement. Et aussi, à la fin de sa formation, chaque postulant peut aussi avoir à se rendre compte que ben finalement, ça lui correspond peut-être pas autant qu'il le pensait. Et une fois la formation terminée, il peut se retirer et dire « Écoutez, je suis désolé, ce n'est pas pour moi. » Et il est libre. Enfin voilà, il y a cette notion à la fois d'engagement et de liberté.
Voilà, il y a pas, vous ne faites pas signer un contrat de travail, hein, mais pour autant, il y a quand même ce double aspect de savoir si on est fait pour ça, tout simplement.
Voilà, c'est ça. Après, on signe un contrat d'engagement.
Ah, là,
après
c'est...
seulement.
Là, c'est la gestion des activités associatives. C'est un autre débat.
C'est ça.
Mais par contre, alors, une confusion que beaucoup de gens peuvent être amenés à faire, c'est-à-dire qu'on parle de soins palliatifs, on parle de la fin de vie, et du coup, beaucoup de gens doivent avoir une étincelle dans l'esprit qui sera relative à l'euthanasie, en fait, puisque c'est une des thématiques de la fin de vie aussi, et qu'on est souvent amené à envisager, ne serait-ce que dans les actualités, par exemple. Alors, c'est autorisé en Suisse. En France, ça ne l'est pas encore. Et comment les gens, eux, sont amenés à aborder ça et quel lien on peut voir entre les soins palliatifs, par exemple, dont vous parlez, et le thème de l'euthanasie qui peut s'inviter dans la société en règle générale, mais aussi chez les personnes qui pourraient être concernées.
Alors, ce débat est un débat sociétal. Il est à l'ordre du jour, vous avez raison. C'est vrai que notre propos, non pas que nous souhaitions fermer ce débat, pas du tout, mais nous souhaitons promouvoir les soins palliatifs. Parce qu'après 40 ans d'exercice des soins palliatifs, force est de constater qu'un certain nombre de personnes dans le grand public sont encore mal informées, ne savent pas exactement ce qu'on y fait, jusqu'où la loi nous autorise à faire des choses, autorise les soignants des soins palliatifs à entreprendre une action telle ou telle autre action. Pour l'instant, la fin de vie en France, légalement, elle est régie par la loi Claeys-Leonetti de février 2016. Mmh. Cette loi, elle reprend la loi de 2005, qui déjà avait noté dans le cœur de sa loi l'absence d'obstination déraisonnable, c'est-à-dire le refus de ce qu'on appelait
l'acharnement thérapeutique.
De l'acharnement thérapeutique. Le droit d'arrêter un traitement, le droit de demander à arrêter un traitement, le droit de demander à ne pas l'entreprendre, et ça c'est très important pour la suite, et la sédation qui était prévue, une sédation qui était prévue en fin de vie pour les risques de fin de vie, j'allais dire cataclysmiques. les hémorragies terribles et les morts par insuffisance respiratoire majeure.
D'accord.
La loi de 2016 est devenue plus contraignante pour les soignants, quelque part. Elle garde bien sûr le refus de l'acharnement thérapeutique. Par contre, elle donne aux patients, sans restriction, comme le faisait la loi de 2005, le droit de demander l'arrêt d'un traitement ou de ne pas l'entreprendre.
D'accord.
Et elle a mis à l'ordre du jour de la loi de 2016 la sédation terminale et continue jusqu'à la mort.
Très bien.
Ce qui est un élément supplémentaire, si vous voulez, quand le pronostic vital est à court terme, à la demande d'un patient et dans une décision collégiale, parce que ça c'est quelque chose de très important dans les soins palliatifs, c'est la collégialité, c'est-à-dire une décision commune, qui ne repose pas sur une seule personne.
Qui pourrait être intéressée dans l'affaire, bien entendu.
Et voilà. Et donc, cette collégialité est un des pivots des soins palliatifs. À la demande du patient, dans cette décision collégiale, on peut prendre la décision d'endormir le patient jusqu'à son dernier souffle. Voilà.
Très bien, donc quelques différences entre les lois de 2005 et 2016, mais bon, la société évoluant, la législation se mettra au diapason, mais il faudra encore un peu de temps si nécessaire. Une dernière question, et croyez bien que j'ai horreur de la poser. Vu l'état de délabrement de l'hôpital public de nos jours, vu les scandales qu'on a eu récemment dans les maisons privées, les EHPAD qui sont gérés par des sociétés privées, quand on voit la façon dont sont traitées parfois les vieilles personnes vulnérables ou dont sont considérées à tort ou à raison les vieilles personnes dans notre société après, par exemple, les élections notamment, qui ont vu des disparités de vote en fonction et de préoccupations écologiques en fonction des classes d'âge, eh bien, il y a l'expression « ok boomer » qui fait florès sur les réseaux sociaux. Elle est parfois utilisée de manière injuste, mais c'est comme ça. Je me dis, le travail que vous faites, n'est-ce pas de plus en plus un peu une douce utopie, sachant que les moyens, eux, sont de plus en plus rares et que les soins palliatifs, par exemple, ne pourront peut-être un jour à terme tout simplement plus être prescrits?
Alors, on doit être des douze utopistes.
Et je souhaite. C'est méchant comme question.
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, j'entends tout ce que vous dites. Toutes ces choses, nous les observons. Nous observons aussi que quand il y a des bénévoles dans un EHPAD, par exemple, d'abord, c'est parce que la direction l'a souhaité et qu'il y a quelque chose qui est de l'ouverture dans ce souhait d'accueillir la société civile, et que notre présence, elle est souvent une garantie de mieux traitance, j'allais dire. Très souvent.
Vous êtes une troisième partie, une tierce partie qui permet un peu de
contrôler les choses. On est le regard de la société civile. On est le regard de la société civile. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à pouvoir apporter ce regard et cette vigilance quelque part. On est un peu des vigies, voilà, et on veut bien être encore des vigies. Et puis peut-être on sera des utopistes et peut-être... Et justement, je pense que si dans une législation, on devait cohabiter avec d'autres choses, je pense que garder forte la place des soins palliatifs, c'est vraiment très important pour nous tous.
Tant il est vrai qu'on s'habitue à tout, sauf à la douleur, et puis sans quelques utopies en mémoire ou à l'esprit, on finirait tous par vivre dans une dystopie, et ça c'est beaucoup moins rigolo.
Voilà.
En tout cas, merci Evelyne Ponchon d'être venue nous suggérer ce spectacle, Mon père c'est espion, qui sera joué à l'Espace Alia du 7 au 28 juillet, et notamment vous et l'association Regain, on aura l'occasion de vous rencontrer les 8 et 23 à l'issue de ce spectacle, pour parler de ce thème, la fin de vie, dont vous nous avez touché deux mots aujourd'hui sur Osmose. Voilà.
Merci beaucoup à vous.
Allez, restez avec nous, chers amis, et puis à bientôt.